prévu une grande bouteille, hein, parce que généralement je parle longtemps.
On ira faire avant.
C'est gentil. Est-ce que vous aimez les parcs d'attractions? Il y en a quelques-uns qui aiment ça. Europa Park, tout ça. Est-ce que vous aimez les grands 8? Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer par des montagnes russes spirituelles? Être allé très haut, et d'un coup, le stress, et on descend très bas. Très très bas. Jusqu'à douter de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que vous avez déjà connu ou vous connaissez actuellement ce qu'on appelle le découragement? Il y a pas mal de définitions du découragement quand vous tapez sur Internet. J'ai bien aimé celle-là, enfin, si tant qu'est qu'on puisse aimer le découragement. C'est un intense sentiment de lassitude et de faiblesse face à une situation qui apparaît généralement difficile, voire insurmontable. Et j'ai trouvé ça sur un dictionnaire médical, c'est intéressant. Alors peut-être que c'est votre situation aujourd'hui, vous êtes dans le découragement. Je ne veux pas décourager les vacanciers qui nous ont rejoints en vous plombant vos jolies vacances, en plus il fait beau dehors. Mais si ce n'est pas le cas, j'imagine que vous êtes déjà passé par là. Et si quelqu'un n'est jamais passé par là, je laisse tout de suite ma place et je viens vous laisser la vôtre pour me raconter vos secrets. Quelqu'un? Non? Victoria, peut-être? Non. Dans la parole, il existe plusieurs histoires de personnes qui sont passées par le découragement. On pourrait penser à Néhémie, et c'est peut-être un autre sujet de prédication. Mais j'ai pensé à celui d'Élie, à l'histoire d'Élie. Et je vous invite à lire dans 1 Roi, au chapitre 18 et 19. Alors c'est toujours difficile de couper la parole, donc je propose qu'on lise quasiment tout. Enfin, pas toute la parole, hein, mais tout le chapitre. 1 Roi, chapitre 18. Bien des jours passèrent, ah oui, juste la situation initiale, c'est qu'il n'a pas plu en Israël depuis 3 ans, parce que Élie a prophétisé qu'il ne tomberait pas une seule goutte d'eau sur l'ordre de Dieu pour punir en fait le peuple d'Israël et notamment son roi qui s'est détourné de lui. Donc bien des jours passèrent et au bout de 3 ans, la parole de Dieu fut adressée à Élie. « Va te présenter devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est bien moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi, ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. L'Éternel est vivant. » Il n'y a aucune nation, ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi, ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Bon, il stresse un peu Abdias là. Élie répondit, l'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Élie répondit, « Je ne trompe pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 500 prophètes de Baal et les 400 prophètes, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Acab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-ci qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une deuxième fois. » Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. » Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Verset 38. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un feu qui avale de l'eau, mais ça doit être impressionnant. « Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Je saute au chapitre 19, verset 1. « Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire, « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazael comme roi de Syrie. » Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Amen. Voilà notre long texte. Ce chapitre 18 commence par ce qu'on pourrait appeler, en tout cas ce que j'ai intitulé, le grand show d'Élie. Hein, Élie vient sans doute de vivre le plus grand succès de sa vie de prophète. On pourrait presque parler d'un grand show, avec du suspense, une mise au défi, un spectacle son et lumière pyrotechnique. Bref, des événements incroyables et une fin dramatique pour les faux prophètes. C'est le passage que j'ai sauté, mais en gros, les 950 se font trucider par le peuple d'Israël, les faux prophètes. C'est assez violent, mais voilà. En tout cas, rendez-vous compte, Élie, seul, 950 prophètes, donc 450 prophètes de Baal, il lance un défi insensé et qu'il va remporter avec deux choses qui retiennent, je ne veux pas prendre trop de temps sur ce passage-là, mais deux choses qui retiennent mon attention. C'est qu'on est vraiment dans un défi puisqu'on a Élie qui chambre ses adversaires. Vous avez déjà vu les footballeurs sur un terrain de foot ? Ça a fait tout un débat avec l'Américaine qui a marqué plein de buts à la Coupe du Monde parce que... c'était l'autre qui buvait sa tasse de thé face aux Anglaises. Voilà. Ce que les gens ont l'habitude de faire dans le sport, c'est chambrer un peu les adversaires. Et bien, étonnamment, Élie fait la même chose. Mais je dirais que la raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il a tellement confiance en Dieu. Hein, verset 27, Élie se moque à deux et dit « Crie à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou bien encore en voyage, peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Il est tellement certain de la puissance de Dieu et que Dieu va répondre à sa prière qu'il chambre ses adversaires. Je ne sais pas s'il y a un message spirituel là derrière, mais ce que je vois, c'est que c'est intéressant que Élie prête des caractéristiques humaines à Baal, comme pour le dévaloriser. Voilà, il est en vacances, il est en voyage, il va se réveiller, peut-être. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme dans un défi aussi, mais plutôt là comme un numéro de cirque ou de magicien, Élie se met des handicaps. Et c'est assez ironique d'ailleurs, parce que pour montrer la puissance de Dieu, alors qu'il n'y a pas une seule goutte de pluie et que le roi et le chef du palais du roi sont en train de chercher les cours d'eau qui ne sont pas à sec pour ramener de l'eau, il demande à ce qu'on prenne des cruches d'eau et qu'on aille bien détremper son sacrifice. C'est un peu du gâchis hein, entre nous. Mais quatre fois, ou trois fois, verse de l'eau sur l'autel. Pour être bien certain que ce n'est pas un truc de prophète, mais, non pas un truc, mais la puissance de Dieu. Quelle confiance en Dieu. Le résultat de cette confrontation, elle est sans appel. Élie sort grand vainqueur du match. Et surtout, il fallait bien ça pour que le peuple revienne à Dieu. Il fallait un tel événement incroyable pour que le peuple revienne à Dieu. Alors moi, quand je lis ce texte, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi et comment, après ce succès, le succès de sa carrière, il peut tomber si bas. Et on arrive au chapitre 19. L'élément qui fait la bascule pour Élie, c'est la menace de Jézabel. Jézabel qui lui dit, écoute, t'as trucidé mes 950 prophètes quand même, t'es un petit peu abusé, je vais te faire la même chose. Œil pour œil, dent pour dent, même si il y aurait un peu moins de morts. Alors Élie, si moi je réfléchis un petit peu, je me dis, en me mettant à sa place, franchement j'aurais eu plus de crainte seul face à 950 prophètes, qui gesticulent en plus dans tous les sens, que par la parole donnée à travers un serviteur, la parole de la reine Jézabel. Donc c'est qu'elle devait être sacrément terrible, Jézabel, et effectivement elle a une jolie réputation dans la Bible et dans l'histoire de l'art aussi. En tout cas, ni une ni deux, Élie, il dit à son serviteur, écoute, on se fait la malle. Élie prend la fuite. Il laisse son serviteur à la gare des bus de Beersheba. Ouais, je me suis renseigné sur Beersheba pour voir ce qui était arrivé à Beersheba, et sur Wikipédia, ils disent que c'est une grande gare des bus, un nœud de connexion. Donc il laisse son serviteur à la gare des bus, même si à l'époque c'était peut-être la gare des ânes. Plus sérieusement, c'est la ville d'Abraham, c'est la ville où Abraham a résidé et où Abraham a fait une alliance avec Abimélec. Et il s'enfonce dans le désert. Alors, quels sont les effets du découragement sur Élie et, par extension, dans nos vies? Et là, je me focalise sur les versets 4, 10 et 14. Verset 4, Élie dit « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Et versets 10 et 14, c'est en fait la même chose. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Il y a deux choses que le découragement produit dans nos vies. La première, c'est que le découragement te vole le souvenir. Le découragement vole nos souvenirs, nos meilleurs souvenirs spirituels de notre vie avec Dieu. Le découragement, c'est quoi? C'est une attaque sur notre esprit. Et l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est ce qui nous met en contact avec Dieu à travers la foi. Éphésiens 6 nous parle du bouclier de la foi qui est utile pour arrêter les tirs du malin. Mais le diable sait qu'on a un endroit vulnérable et c'est là qu'il va chercher à attaquer. Alors Élie, après ce terrible haut, il a un bas terrible. Il a une perte subite de perspective. Alors que c'était quelqu'un qui avait une vision assez incroyable, un leadership, d'un coup, c'est la grosse chute, une sorte de burn-out spirituel, si on peut dire. À tel point qu'il va jusqu'à demander la mort. Je pense que la leçon là, c'est qu'il faut apprendre à se battre contre ça. Il faut apprendre à se battre contre toute tentative d'attaque sur notre esprit. C'est notre esprit qui nous met en connexion avec Dieu. Et le découragement va nous voler les meilleurs souvenirs de notre vie spirituelle et va nous forcer à nous focaliser sur les choses négatives. Pourquoi Élie ne se souvenait pas de ce qui était arrivé? Allez, au maximum 24 à 48 heures avant. C'est quand même très étonnant. J'ai entendu une fois quelqu'un qui conseillait de consigner dans un carnet tous nos bons souvenirs avec Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous font ça. J'avais fait ça une époque et puis j'ai perdu le carnet. Mais je pense que c'est une bonne chose, effectivement. Parce que dans les moments où on est plus bas, on peut revoir quand Dieu a répondu à nos prières, quand Dieu a été fidèle, quand Dieu a simplement pris soin de nous. Et un carnet à ressortir le jour où le découragement tente de vous voler vos souvenirs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le découragement nous donne une vision déformée de la réalité. Hein, c'est versets 10 et 14. Que dit Élie à Dieu par deux fois? En substance, il lui dit « J'ai fait le maximum. Écoute, Dieu, je me suis engagé vis-à-vis de toi. J'ai fait le maximum. Mais personne ne m'a écouté. Et en fait, au final, je me retrouve tout seul. » Mais c'est faux. La réalité de 24 à 48 heures avant, c'était quoi? C'était que les Israélites sont revenus vers Dieu. Après le coup d'éclat d'Élie. Le coup d'éclat de Dieu. Les Israélites sont revenus à Dieu. Et Dieu rappellera à la fin du passage qu'il y a 7000 hommes qui n'ont jamais plié le genou devant Baal et qui peut s'appuyer sur ces gens-là. Alors est-ce que Élie l'ignorait ou est-ce qu'il l'a oublié? Notre pauvre Élie est dans un état de lucidité qui n'est pas terrible du tout, pour employer un doux euphémisme. Et ça me fait penser à nous. Élie répète cette litanie, hein, ce « je suis resté tout seul », il revient deux fois dans le passage. Comme s'il était vraiment persuadé de ça. D'ailleurs, en fait, il l'a répété trois fois parce qu'il a dit la même chose face au prophète de Baal, « je suis tout seul face à vous ». Mais est-ce que ça ne nous arrive pas aussi? Est-ce que ça ne nous arrive pas d'être tellement découragé que finalement, j'en suis arrivé à me bâtir un discours officiel sur ma situation? C'est un discours officiel, ben voilà, moi je suis là-dedans, c'est mon combat, je suis tout seul, et je ressasse ça, et je le diffuse aux autres, je le diffuse autour de moi. Peut-être des fois c'est vrai. Et je le diffuse autour de moi, et comme Élie, je le diffuse jusqu'à Dieu. C'est quelque chose de bien rodé dans mes plaintes à Dieu. Et parfois, c'est peut-être un bout de la réalité, mais cette réalité, elle est déformée. C'est vrai qu'Élie était seul face à 950 prophètes. Mais il a occulté les 7000 hommes. Il a occulté Dieu qui était avec lui quand même. Quelle que soit notre réalité déformée qu'on a à notre niveau, est-ce que vous avez fini par la croire? Est-ce même peut-être confortable de se laisser persuader que c'est vraiment notre réalité? Parce que comme ça, on nous plaint. Je parle à moi, hein, en premier. Voilà ces deux effets, déformer la réalité et voler nos souvenirs. Alors, ouais, vers quelque chose d'un peu plus positif quand même. Quelles sont les solutions divines? Quand notre vision elle est obscurcie par le découragement, quelles solutions? Quelles solutions de Dieu? Quelles sont les clés qu'on peut voir dans l'histoire d'Élie? Et j'ai vu trois clés. La première clé, c'est laisser Dieu prendre soin de nous. Que fait Dieu face à Élie? Est-ce qu'il commence à lui rappeler la réalité des choses, à le contredire, à lui dire « Écoute, Élie, quand même, t'es pas tout seul ». Non. Élie est tellement en burn-out, j'ai envie de dire, que la première chose à faire, la première chose que Dieu le laisse faire, c'est se reposer. Se reposer, et deuxième chose, pourvoir à ses besoins basiques, manger et boire. Deux fois. Dormir, manger et boire. Spirituel, hein? Parfois, on cherche des solutions compliquées, mais Dieu nous rappelle que les choses basiques sont importantes et que nous sommes un triptyque, corps, âme et esprit. Guérir notre esprit n'est pas opposé avec le soin de nos besoins corporels, et Dieu le sait. Et Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous fonctionnez pareil, mais vous avez peut-être déjà remarqué que si vous vous sentez physiquement mal, votre morale en prend un coup. Et vice-versa. Si vous êtes bas dans votre morale, physiquement, vous commencez à avoir des soucis. Donc on est un tout. Et si vous êtes découragé, je pense qu'il y a une question à se poser. Est-ce que je laisse Dieu prendre soin de moi? Est-ce que je m'accorde assez de repos? Ça tombe bien, c'est les vacances pour certains. Est-ce que je m'accorde assez de repos? Est-ce que je mange correctement? Ou est-ce que le découragement prend le pas sur tout ça? Peut-être que ça vous paraît pas spirituel, mais moi je suis persuadé que Dieu passe aussi par ces choses-là pour nous restaurer. C'est l'étape préliminaire. Dieu va un peu recoller les pots cassés à l'intérieur des lits, si on peut parler comme ça. Laissez Dieu prendre soin de nous. Et la deuxième clé, elle est un peu plus spirituelle, si on veut. Il faut une nouvelle rencontre avec Dieu. Élie doit aller dans le désert. Hein, il part de la ville d'Abraham et il va vers Horeb. Et il passe par le désert. Parfois, on a besoin d'aller dans un autre endroit pour quitter notre découragement. Parfois, on est dans le désert un bon moment, mais c'est aussi ce moment qui nous prépare à rencontrer Dieu. On retrouve dans le passage la symbolique des 40 jours, 40 nuits. D'ailleurs, Dieu a dû lui donner des barres énergisantes assez fortes, parce que 40 jours, 40 nuits, hop. C'est pas la première fois qu'Élie, quand il est descendu du mont Carmel, il a aussi dépassé un char en courant à côté. C'est quand même un gars assez extraordinaire, quand il a l'essence de Dieu, l'essentiel. Et ça nous rappelle aussi ce qu'a vécu Jésus dans le désert, 40 jours et 40 nuits, où Dieu l'a équipé, l'a fortifié avant de pouvoir démarrer son ministère et affronter les tentations du diable. Élie va jusqu'au mont Horeb. Le mont Horeb, c'est la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, celle-là où Moïse a reçu les 10 commandements. Vous vous souvenez peut-être, quand il est redescendu de la montagne, il était transfiguré. Il n'avait plus le même visage. Bon, il avait pris quelques cheveux blancs apparemment, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les films sur les 10 commandements. Une rencontre intime avec Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Il nous faut cette nouvelle rencontre. Et j'ai envie de dire, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et là, je me parle le premier, parce que si je regarde mes moments de rencontre avec Dieu, je ne dirais pas qu'ils sont qu'à 5 minutes, mais ils ne sont pas à 40 jours et 40 nuits consécutives, en tout cas. Une chose intéressante, vous remarquerez qu'au bout de 40 jours, Élie a toujours le même discours. Je suis tout seul. C'est le verset 14, c'est la deuxième fois qu'il sort ça. Ça veut juste dire que dans nos mentalités, des fois, notre réalité déformée, elle met du temps à être transformée par Dieu. Malgré tout, c'est seulement cette rencontre qui peut renverser notre vision de la situation, notre vision erronée. Et alors moi, je trouve magnifique, vraiment, c'est un de mes passages préférés de la Bible, je crois, ce passage de la nouvelle rencontre d'Élie avec Dieu. Dieu se révèle non pas dans le fracas des choses impressionnantes. Au contraire, il se révèle dans ce murmure doux et léger. Hein? Ni le tremblement de terre, ni le feu. Alors Dieu était révélé dans le feu quelques temps avant. Mais là, Élie, il a besoin de quoi? Il n'a pas besoin de coups d'éclat, de choses extraordinaires, il a juste besoin du murmure doux et léger, de Dieu qui vient effleurer son épaule. Et là, pour ressentir ce murmure doux et léger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être attentif. Il faut réussir à faire silence en soi. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Parce qu'on a des dizaines de voix, des dizaines de sollicitations autour de nous. Vous vivez peut-être des situations compliquées où il faut courir de gauche à droite, il faut gérer les enfants, il faut gérer le travail, et puis vous n'en sortez pas. Malgré tout ça, Élie parvient à reconnaître la présence de Dieu. Et il fait, à l'instar de Moïse, quand il a reçu les 10 commandements, il se voile le visage, parce qu'il a reconnu enfin que c'est dans ce murmure doux et léger que Dieu intervient et Dieu vient à sa rencontre. Faire silence et ouvrir son esprit à la rencontre. La troisième clé, et j'arrive à la fin. J'ai même pas bu, hein. Tu disais on peut la remplir. Mais... La troisième clé que je vois dans ce passage, c'est qu'il ne faut pas se battre seul. Élie dit qu'il est seul. J'ai fait trop pour Dieu, je me suis donné corps et âme, et je suis seul contre tous. Ça fait un peu Calimero, hein. Il y a du vrai dans ce que dit Élie, mais c'est seulement une partie de la réalité. Et je dirais, ce discours est dangereux. Si vous êtes dans la situation où vous dites à Dieu, j'ai fait énormément, je suis à ton service d'une façon ou d'une autre, je fais énormément pour toi et je me sens seul, c'est dangereux. Nous ne sommes pas appelés à combattre seuls, et surtout des combats qui sont au-dessus de nos forces. Dieu a promis de nous équiper pour les combats qu'on a amenés. Alors qu'est-ce qui se passe si on a l'impression de ne pas être équipé tout seul? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin des autres. Hein? Essayer de combattre un combat seul, en disant « je suis tout seul », en le faisant sentir autour de nous, c'est dangereux. Ça fait de nous des proies faciles. En fait, on a besoin des autres. Et quelqu'un disait, j'ai entendu ça récemment, il disait que parfois Dieu te fait entrer dans un combat que tu ne peux pas gagner seul. Justement, pour nous apprendre à nous appuyer les uns sur les autres. Et je pense que c'est là aussi le rôle d'une communauté, d'amitié enracinée dans l'amour de Dieu, de frères et sœurs. C'est pourquoi je crois que la vie chrétienne, sans avoir de lien avec une communauté, c'est ce que pas mal de gens essayent de vivre, ils pensent qu'avoir un écran devant eux et regarder un pasteur à travers l'écran, ça suffit. Je ne vais pas jeter la pierre, hein. C'est confortable aussi d'être dans son fauteuil plutôt que sur une chaise, hein, des fois, même si on risque peut-être de s'endormir. Mais je pense que ce lien avec la communauté, il est important. C'est pas le plan de Dieu d'être des chrétiens tout seul. On est bien plus vulnérable tout seul, d'autant plus si on est découragé. Et la fin du passage va dans ce sens. La mission d'Élie se poursuit. Élie, Dieu lui dit, écoute, relève-toi maintenant, va de l'avant. Va oindre tel et tel. Et c'est des nouveaux acteurs qui vont entrer dans le plan de Dieu aussi d'une façon ou d'une autre. Et puis au passage, il y a quand même 7000 hommes sur lesquels je peux compter en Israël. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire ? Pour moi, elle est terriblement proche de nos réalités. Un grand homme de Dieu, et si Élie est passé par là, comment on peut penser, nous, ne pas passer par le découragement à un moment donné ? Combien on se sent seul face à nos circonstances ? Et combien on finit des fois par s'enfermer dans nos raisonnements, comme « ouais, c'est un combat que je dois mener seul, tu sais, c'est mon combat ». Ça, c'est mon combat. Toi, tu as peut-être tes combats, mais moi, ça, c'est mon combat. Écoute, donc j'en parle pas trop, mais je me plains un peu, mais sans que tu saches vraiment ce que c'est. Et puis, en fait, tu sais même pas, donc tu peux pas vraiment prier pour moi, et donc je suis tout seul. C'est courageux, peut-être, mais en fait, c'est faux. Il y a des personnes autour de nous qui sont prêtes à nous appuyer en cas de découragement, qui sont même peut-être passés par exactement les mêmes choses. Quelqu'un disait aussi une fois que des fois on passe par certains problèmes justement pour pouvoir aider d'autres qui passent ensuite par là. Et ça, je crois, c'est vrai. Et peut-être que vous n'osez pas les déranger avec vos problèmes. En tout cas, ce que je remarque là, dans ce passage aussi, c'est que c'est pas Élie qui va vers Dieu, c'est Dieu qui va vers Élie. C'est Dieu qui vient se révéler. Et on a un grand Dieu, qu'il faut jamais oublier ça, ce paramètre. On a un grand Dieu vers qui nous pouvons nous tourner en toutes circonstances. Et surtout, j'aimais bien la prière d'Hélène tout à l'heure, surtout quand on n'est pas sous notre meilleur jour. Ça sert à rien d'arriver en costard-cravate spirituel pour s'approcher de Dieu. toute façon, Dieu y voit à travers tout ça. Allons vers lui tel que nous sommes. La bonne nouvelle, c'est que si nous nous approchons de Dieu, Dieu promet de s'approcher de nous. Voilà, et je vous encourage à mettre ce temps de vacances à profit pour cela. Et je me parle à moi-même. J'aimerais juste pour finir, c'était la conclusion, mais pour finir la conclusion, j'étais, juste pour dire que des fois Dieu parle à travers de petites choses. Je ne sais pas si ça vous a parlé ce matin, ce message, j'espère. Mais j'étais la semaine passée au Kingdom Festival, c'est un festival, c'est pas un festival de musique, mais c'est un rassemblement chrétien à Bulle, en Suisse. Et je suis allé deux jours, le mardi soir et le mercredi. Et le mardi soir, c'était pour le concert de Glorious, que vous connaissez peut-être. C'est un groupe chrétien de louanges. On chante certains chants ici. Et je partais de Lausanne en voiture. Et normalement, on met 50 minutes pour aller à Bulle. Et j'étais pris dans un embouteillage de folie parce qu'il y avait un accident en fait d'une moto qui s'est couchée. J'ai appris ça le lendemain avec une voiture qui l'a suivie, qui a pilé, qui est passée sur le pont de l'autoroute 7 mètres plus bas. Bref, la dame n'est pas morte apparemment. Mais toujours est-il que moi, j'ai mis 3 heures pour arriver. Pour un trajet qui faisait 50 minutes. Et j'aspirais vraiment à participer à ce concert. Et puis en plus, je devais tenir un stand, voilà. Et bon, j'ai mis la musique dans la voiture et puis j'ai pas écouté Glorious parce que j'avais pas ça sur la clé, mais j'ai écouté d'autres choses. Et puis j'arrive au concert, je me dépêche, je peux encore rentrer avec mon billet. Heureusement, on m'annonce qu'il y a encore une demi-heure. Et je rentre dans la salle. Et là, c'est la chanson qu'on va prendre juste après, « Relever le faible ». Et c'est une chanson qui me touche énormément. Et c'est la chanson que je ne voulais pas louper. Ok, ça vous paraît peut-être anecdotique. Pour moi, sur le moment, ça m'a donné un sourire jusque-là. Et je me suis dit, mais quand même, malgré cet embouteillage, Dieu est là. Et Dieu vient me parler là, dans ma circonstance. Bon voilà, c'était un petit témoignage. Et ça ne s'arrête pas là. Donc le concert se passe. Le lendemain, je reviens, voilà, et il y a une plénière avec un prédicateur. Et le prédicateur commence en disant, voilà, j'aimerais parler de Élie le prophète et de son moment de découragement. Et là, je fais, non mais, ça c'est ce que j'ai prévu pour dimanche. Voilà, donc c'est pas un copier-coller du message, hein, parce que c'était déjà en route. Mais voilà, c'est des petites choses où je me dis, bon, ok, donc, faut vraiment que je parle là-dessus. Voilà, je m'arrête là. J'aimerais, si c'est possible, que les musiciens viennent pour prendre ce chant, relever le faible. Et je vous invite à un moment simplement de prière et puis de réflexion aussi et de livrer vos fardeaux aussi à Dieu et ces fardeaux de découragement.